son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot.
Bonjour.
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 Salut.
Aujourd'hui, un podcast un peu différent. On ne va pas avoir une table ronde, on va dire, du mal de série. Vous allez découvrir en même temps que nous ce nouveau format. On va parler des nouvelles séries de la saison 2015-2016. En 2015, on a dépassé le cap des 400 séries américaines produites en un an. Et si les networks sont de plus en plus frileux à annuler hâtivement leur production, ça n'empêchera rien de l'arrivée de cinquantaine de nouvelles séries qu'on ne regardera pas en septembre. Capter notre intérêt, ça devient une tâche de plus en plus difficile, mais le garder sur le long terme, ça l'a encore plus. Alors aujourd'hui, podcast un peu différent, on va se pencher sur les nouvelles séries à la manière de l'émission John or Die, l'émission de History Channel. On va se pencher sur 6 nouvelles productions de la saison passée qui ont réussi à nous marquer, donc on ne parlera pas de Blood and Oil. Et au cours de ce podcast, on va en éliminer 4 pour qu'on finisse avec 2 productions de la série de la saison 2015-2016, et on va avoir un beau panel de perdusiens qui vont choisir quelle était la meilleure nouvelle série de la saison.
Ouh.
Alors la gagnante, est-ce que ce sera le préquel de Keeping Up with the Kardashians par Ryan Murphy avec Ross de Friends et John Travolta? Est-ce que ce sera la nouvelle chouchoute de la CW, Crazy Ex-Girlfriend? Est-ce que ce sera la série médicale préférée de Nico, Code Black? Est-ce que ce sera Supermeuf, la belle surprise de la saison? Est-ce que ce sera la première série Netflix française, Marseille? Là, on peut vous répondre non tout de suite. Ou est-ce que The Real O'Neill va réussir là où The McCarthy's a échoué? Alors, autour de moi, un panel d'experts. De son excellent compte Twitter, on sait qu'elle est entrepreneuse, féministe, fan d'Hamilton, tout générique, végétarienne. Mais nous, on l'aime l'avoir dans le podcast pour ses analyses fines et poussées comme « Il y a des méchants, il y a des gentils » sur l'importance de The Americans. Ou « Mais il est sexy, sur l'intérêt de la présence de Jason sur The Good Wife. Glousse un peu pour moi, Fertis, s'il te plaît.
Certainement pas, non, certainement pas.
Figure obligée du podcast depuis la première heure. Vous pouvez suivre Adjégé Perdusa, l'homme dont les phrases sont comme un RER en période de grève, avec de longues pauses inattendues et on n'est pas sûr d'arriver là où on avait prévu d'aller. Jérôme.
Bonjour.
Il est journaliste, il est professeur, il est critique, il est scénariste, il a un excellent compte Twitter, mais on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'il est beau, mon Nico.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on commence directement. Bon, on sait qu'on va l'éliminer. Marseille.
Oh bah oui, ça va aller vite. Et encore, je crois que je suis celui qui a le plus vu.
Oui. Tous.
Avant de dire que c'est nul, t'es la seule personne qui est capable de nous dire de quoi ça parle, Marseille ou juste
Marseille, sur le papier, c'est pas une mauvaise idée. C'est l'histoire d'un type qui arrive, qui est maire depuis 20 ans de la ville de Marseille, il s'appelle Robert Tarot. Alors, Tarot de Marseille, tout le monde a dit que c'était un jeu de mots en bois.
Je viens de comprendre.
Ce qui n'était pas très étonnant. C'est très visuel ce que tu viens de faire, Delphine, c'était bien. Pour un podcast, ça vaut le coup. qui va passer la main à son dauphin qu'il a façonné pour il s'appelle Lucas Barès, si je ne me trompe pas, qui est joué par Magimel, qui est mauvais comme un cochon, mais ça, on y reviendra.
Parce que c'est pas Hélène le cochon.
En plus. Et il doit donc lui passer la main, sauf que en fait c'est une fausse transition, parce qu'il se dit je peux le manipuler comme je veux. Et en lui filant les clés, en fait, c'est moi qui vais continuer à conduire le camion.
Un peu comme Poutine en Russie.
C'est, voilà, Poutine et Medvedev. C'est pas mal, ça, comme analogie. Et bizarrement, c'est un ami de Poutine qui joue le rôle principal. Donc, c'est peut-être pour ça que ça lui a plu, d'ailleurs. Sauf que, parallèlement, sa femme, à Robert Tarot, est malade. Et au moment où il se rend compte que son successeur va le planter, sa femme tombe malade et il doit s'occuper d'elle, et il doit choisir finalement entre sa vie politique et sa vie familiale, il est incapable de choisir entre Marseille et sa famille. Sur le papier, ça pourrait être pas dégueu, enfin, en tout cas c'est basique, mais ça peut être efficace quand c'est bien traité, quand c'est bien incarné, quand on sait ce qu'on veut raconter. Là, on n'a ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Donc, à partir de là, on a, comment dirais-je, une mauvaise saga de l'été, mais vraiment mauvaise pour le coup, parce qu'on peut spoiler, on peut y aller ou pas.
Oui,
spoiler sur Marseille.
Non, parce que finalement, au bout du cinquième épisode, on apprend que, en fait, Lucas Barrès, le fils symbolique, ben, en fait, c'est le fils illégitime en fait, de Robert Tarot. Et que voilà, en fait, c'est. À côté, le mariage en Moldavie dans Dynasty, c'est du Shakespeare, quoi. Donc, au bout du compte, c'est une catastrophe, quoi. À la fois dans le jeu, à la fois dans le propos, à la fois dans la réalisation aussi, parce que c'est bien beau de s'être, beaucoup excité en se parant du titre de showrunner sur ce projet-là, alors que personne ne le fait jamais.
Oui.
Encore peut-être mieux ne pas le dire et l'être plutôt que le dire et ne pas l'être. Et donc au bout du compte, on a même pas un plaisir coupable, parce que ça devrait être quelque chose dont on dit, ben, c'est ce que vous disiez dans le précédent podcast, libéré de tout ce qui est les contingences de la censure, etc. On devrait avoir une série française qui peut proposer quelque chose de vraiment costaud. Mais la vérité, c'est que c'est la traduction criante du fait que, comme on n'a pas une tradition de la narration télé en France, qu'on ne sait pas raconter une intrigue de télé, et ben, comme on a perdu ça surtout, on se retrouve avec quelque chose qui montre qu'on est incapable de le faire. Même quand on dit, ouais, on va être libéré de la censure. Ouais, mais si la censure, elle est dans un cadre qui permet de, stimuler malgré tout une connaissance de la narration, comme on l'a chez les Britanniques, comme on l'a chez les Scandinaves, comme on l'a chez les Américains, ben c'est bien de lâcher les rênes. Sauf que quand tu sais pas faire, et ben c'est comme dans la cuisine, quoi. Tu offres un panier sud de ouf à quelqu'un et tu dis, vas-y, fais-moi le plus gros plat que tu veux. Si la personne sait pas cuisiner, ben ton plat il sera dégueulasse, et c'est exactement ce qu'on a.
Mais pour revenir à ce que tu disais, t'as quand même regardé toute la saison.
Oui.
Il y a combien d'épisodes ?
8.
8. Zou, c'est pas génial. C'est même pas très 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 bien. Par contre, tu peux suivre une série pas géniale, pas très très bien, avec un peu de plaisir. Qu'est-ce qui te motive à regarder 8 épisodes de Marseille ? Parce que tu peux faire comme Jérôme, Delphine et Jus.
C'est une bonne.
Regarder 2 épisodes et puis te dire.
Ouais, bah en fait, comme je devais en faire la critique pour le taf,
je
mieux être en capacité de le
faire. Il a été obligé.
Bah, c'est toujours un petit peu délicat de dire, voilà, j'en ai vu que 3. Et... Enfin, non, bon, ça nous arrive aussi de le faire, mais là, pour le coup, comme il y avait quand même une énorme attente, c'était l'occasion de voir. Ça se termine sur un cliffhanger.
Donc plus. Tu seras là pour la saison 2 ?
Non, je pense pas, faut quand même pas exagérer. Le syndrome de Stockholm, c'est limite.
Et il y a un générique ?
Oui, alors c'est le seul truc que je trouve plutôt bien foutu.
C'est vrai.
On vous reconnaît un peu la patte Netflix là-dessus. Et puis de toute façon, en fait, le problème c'est que ça a été mal vendu. Ça a été en mode vous allez voir ce que vous allez voir. Sauf qu'il aurait peut-être mieux valu être en mode un peu ok, on va être modeste et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis, résultat des courses, le train a foncé dans un mur. Hein. De manière absolument incroyable.
Et Gégé et Fertis, vous aviez Jus avec vous.
C'est vrai, il était là.
Vous lui avez fait boire de l'alcool.
Oui.
Un petit peu.
C'était une heure avancée de la nuit.
Oui. Oui.
Vous connaissant, étant donné que c'était votre plus gros fantasme depuis 10 ans, je m'attendais à ce que vous le Roman Polanski. Non, vous vous êtes dit, on va regarder Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez voulu regarder Marseille ? Et pourquoi vous avez dit, je vais pas regarder qu'un épisode de Marseille pour me moquer. Je vais pas m'arrêter après un quart d'heure. Je vais même regarder le premier et le dernier de Marseille.
Mais parce que je pense que si tu dois regarder Marseille, autant le faire avec des amis
et de
avec qui tu peux te moquer de façon très très méchante.
Il y avait aucune... Enfin, à part le plaisir de se moquer, vous avez... Sincèrement, autour de la table, est-ce que vous avez... trouver quelque chose de bien dans Marseille, un truc qu'il faut regarder.
Non, non, il n'y a vraiment rien à sauver.
Non, et si on a regardé un deuxième épisode, je pense que c'est parce qu'on a été tellement consternés par le niveau général qu'on s'est dit comment est-ce que ça peut durer sur 8 épisodes, est-ce que ça peut être aussi mauvais comme ça sur 8 épisodes. Et puis, il y avait 2-3 pistes qui étaient lancées deux, trois grosses ficelles énormes. On s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ça va donner à la fin? Et effectivement, les deux, trois secrets que n'importe quel téléspectateur qui a déjà regardé trois séries dans sa vie a dîné. Bah oui, dans le huitième épisode, c'est là où on apprend tout ce qu'on savait déjà. Donc non, c'est, on a regardé le deuxième épisode parce que on était effarés du niveau.
Donc on est d'accord que pour vous dire que Marseille, on dégage.
On dégage, ouais.
Oui, on dégage.
Et The Real O'Neill, GG, on garde ou on jette? Déjà, qui l'a vu autour de la table, à part Jérôme?
Moi, je l'ai vu, ouais.
Ah. Alors, ça parle de quoi déjà, The Real O'Neill, Jérôme?
The Real O'Neill, c'est une comédie d'ABC dans la lignée de Modern Family et Fresh Off the Boat et Blackish. Là, le twist, c'est que dans une famille catholique de Chicago, le fils du milieu, il y a un aîné, il y a une cadette et puis il y en a un au milieu, révèle son homosexualité, sachant que la famille est censée incarner la famille catholique parfaite de Chicago. Et cette révélation amène tous les membres de la famille à révéler leurs défauts, leurs problèmes. Et donc voilà, on les suit pendant une année scolaire, pendant 13 épisodes, à voir comment est-ce que tout le monde gère tout ça, comment est-ce que la mère apprend à gérer le fait que l'image de sa famille n'est pas parfaite dans sa communauté. C'est, s'il y a de l'idée, c'est intéressant d'avoir un personnage central de sitcom de ce genre qui soit au moins qui soit jeune. Après, le traitement n'est pas terrible. Il y a des scènes fantasmées qui sont un peu marrantes, mais on n'est jamais au niveau de Jane the Virgin dans ce genre de choses. Il y a un côté un peu plat. On peut espérer qu'avec une nouvelle saison, les scénaristes finissent par trouver leur marque, trouver une identité peut-être un peu plus marquée. Il y a de l'espoir, mais c'était quand même pas super génial cette saison.
Et si c'est pas Jane the Virgin, est-ce que c'est du niveau de McCarthy? Qui était une sitcom sympa au passage.
Avec tes blagues sur The Good Wife, pour moi.
Avec le rhume de Calf.
Ouais, non.
Qui était vraiment bien pour le coup.
Qui était vraiment bien, ouais.
Mais là, dans The Real O'Neill, il n'y a pas Martha Plimpton.
Si, il y a Martha Plimpton, mais. Oui.
Qu'on aime bien.
On l'aime
bien. Ah oui, on l'adore, elle est géniale. Hein.
Mais ouais, c'est quand même beaucoup moins bien que The Real McCarthy, qui avait l'avantage d'être plus souvent drôle.
C'est McCarthy,
tout court. C'est pas The Real
McCarthy. The Real McCarthy.
En tout cas, rien n'est aussi bien que The Real Housewives de New York, que ce soit New Jersey ou Beverly Hills.
Mais c'est pas pour ce podcast. Donc, The Real O'Neill?
Non.
Difficile. Hein. Il y a deux séries qu'on jette. Hein.
Ouais.
Mais peut-être que Fertiz va nous réussir à convaincre de garder Crazy Ex-Girlfriend.
Non.
Tout de suite, non. Elle va pas nous convaincre. Non.
Ah non, pardon, j'ai cru que tu demandais pour Real O'Neill. Crazy Ex-Girlfriend, oui, moi je serais pour la garder. Hein.
Et alors, ça parle de quoi? Parce que moi, j'ai jamais vu un seul épisode, je sais pas de quoi ça parle.
Eh bien, ça parle d'une une avocate qui a beaucoup de succès à New York, qui travaille beaucoup et qui se rend compte un jour qu'elle est pas heureuse. Et elle se dit qu'elle serait sûrement plus heureuse si elle allait retrouver son ancien copain de colonie de vacances de quand elle avait 16 ans, qui vit à West Covina, en Californie.
T'es en train de te dire qu'à la trentaine, elle a une crise de conscience et s'est dit « Ah tiens, je vais renouer contact avec le mec que j'ai galoché dans les bois
quand
j'avais 12 ans. » Quelle explication logique, au lieu d'aller en thérapie, voilà. Au lieu d'engager un travail sur elle-même.
Et l'intérêt de Crazy Ex-Girlfriend, c'est qu'elle chante, c'est que tout le monde chante.
Est-ce qu'il chante aussi bien que ceux de Galavant?
C'est dur comme question, ça. Ah là là. Ouais, je dirais que oui. Je dirais que c'est plus travaillé.
Mais alors, toi, il suffit juste que quelqu'un chante pour que t'aimes. Hamilton, oui, Galavant, Crazy Ex-Girlfriend. Donc, t'es pas un super, super juge. Donc,
oui,
il faut que je me retourne vers Nicolas et Jérôme. Est-ce que vous suivez la série?
Non, je suis en retard. C'est quelque chose que je récupère cet été, mais je suis pas dessus.
Bah, question. Ça m'intéresse. Pourquoi tu t'es pas lancé dans Crazy Ex-Girlfriend?
C'est une excellente question.
Parce que t'as quand même regardé Marseille. Donc, l'excuse pour le taf, je veux bien.
Ouais, non, mais si tu mets le doigt sur mes choix particulièrement, qui ferait, comment dire, qui ferait le bonheur de tout un congrès de psychiatres. parce qu'en fait, je me suis dit que je la garde, très tôt, je me suis dit que je vais la garder pour l'été. en me disant ça m'a l'air bien et
je vais pouvoir. Donc on garde sous coude.
Ouais, exactement. Là pour le coup, comme j'avais pas commencé pile quand ça a débuté, je me suis dit ok, là c'est bon, t'as 6 épisodes dans la vue, attends l'été. Tu sais, c'est ce que j'appelle les séries en short. Les séries dont tu vas mater l'été tranquille.
Alors,
quand il fait beau et chaud.
Donc on en vient au thème du podcast. Quand une nouvelle série se lance, qu'est-ce qui arrive à vous convaincre de se dire tiens, je vais la suivre en live ou non, je vais attendre. Parce que série de la CW, série avec une héroïne, avec de la musique, sur un thème plutôt sympa,
avec une
normalement, toute la rédaction doit regarder.
Avec une bande annonce qui marche bien en plus. Le premier trailer était très efficace.
Et Jérôme, tu l'as suivi en live
Ben, moi j'ai décidé de pas mettre de côté de séries pour l'été, puisque l'été j'arrive pas à rattraper, puisque je me lance dans les séries qui sont diffusées l'été, j'en zoue et ça me prend tout mon temps. D'autant que j'essaie d'en profiter aussi pour regarder des vieilles séries. C'est pour ça que j'ai décidé de la regarder.
Et t'en es satisfait de l'avoir suivi ou il y a des moments où tu t'es.
Mais non,
c'est. Merde, il y a un moment où c'est un peu chiant.
J'ai réussi à arrêter Galavant au bout du season premier parce que pour moi, les deux séries partagent le même défaut, c'est-à-dire qu'en dehors des chansons, quand on est en dehors des chansons, ça patouche quand même sévère. Ce qui se passe quand les personnages ne chantent pas est quand même pas super, super intéressant.
Alors là, c'est un problème qui est plutôt pas mal sur les séries musicales. C'est quand même les musiques des séries musicales, même si c'est compliqué à faire, ça reste quand même une grosse béquille scénaristique, un peu comme la voix off, dans le sens où effectivement, si en dehors des moments musicaux t'es pas super super motivé, tu dis bah j'attends que la prochaine chanson,
ça marche quand même mieux que dans Smash par exemple. C'est à dire que pour le coup c'est difficile d'avoir une vraie dynamique entre chant et récit, faire en sorte que les deux, enfin que les chansons viennent magnifier l'histoire et que malgré tout l'histoire parvienne à tenir le choc. Ça fait quand même plus de 25 ans que les Américains essaient depuis Cop Rock, et alors qu'il y a une énorme tradition de la comédie musicale à la télé, ça a mis énormément de temps à être produite de manière efficace parce que ils trouvaient ça trop cher, ils avaient du mal à trouver la bonne méthode, et là j'ai l'impression que après quelques échecs, que ce soit avec Galavant, même si ça n'a pas été un succès d'audience, ou avec Crazy Ex-Girlfriend, même si j'ai adoré la façon dont tu l'as défini lors du dernier podcast, qui était « c'est comme c'est l'inverse des Aristochats », ce qui m'a beaucoup fait rire. Parce que dans les Aristochats, on a un arrête qui s'arrête de chanter pour continuer l'histoire, là c'est l'inverse. Ah, l'alcool fait du dégât.
Je n'ai aucun souvenir de ce podcast, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose.
Mais si, il était très très bien ce podcast.
C'est génial.
C'était l'un de mes préférés en tout cas.
Pour la quatrième de couve du DVD GG de Perdusa, c'est l'inverse des Aristochats en citation.
C'est l'inverse des Aristochats, pas mal, ouais.
Mais oui, mais je pense que Crazy Ex-Girlfriend, de ce point de vue-là, est peut-être la plus aboutie. Les numéros musicaux se renouvellent vraiment à chaque épisode. C'est très très inventif. C'est relativement bien intégré à l'histoire. Après, effectivement, moi, l'histoire qui est racontée par la série m'intéresse moyennement.
Mais pour revenir à une question que tu posais un peu plus tôt, Drum, c'était sur qu'est-ce qui nous fait choisir une série à la rentrée. Moi, il n'y a plus de logique, en fait. C'est je le sens ou je le sens pas. Il y en a tellement maintenant. À une époque, tu pouvais essayer de te dire, bon, bah, ça, c'est plutôt. Et comme il y en avait moins, on pouvait plus facilement choisir. Là, on subit plus le flow qu'on ne le maîtrise. Et du coup, on choisit ce qui nous passe sous le nez en fonction de si on a envie de continuer ou pas. Et après, on va surtout se tourner vers les gens dont on respecte la vie, les goûts, et se dire, tiens, il y a vraiment, ça c'est vraiment pas mal, ok, je m'engouffre dans la brèche. Mais moi, malheureusement, j'ai plus de vraie logique. D'ailleurs, à une époque, j'étais le premier à pister les trailers en me disant, qu'est-ce que je vais suivre l'année prochaine. Là, cette année, mais j'en ai plus rien à faire, quoi, ce soir. On verra ce qui passe. Quelque part, c'est assez désagréable.
Ouais. Et c'est ça, parce qu'on va se passionner pour une trentaine de projets, et à la fin de la saison, il y en aura peut-être qu'une poignée qui vont survivre à la saison 1.
Ouais. Mais on a l'impression de plus subir le flow que de... Tu vois, il y avait le côté, à une époque, tu disais, sans faire le vieux, mais il y a le côté débusquer la série dont peu de gens parlaient. Celle-là, je l'ai suivie dès le début, ok, les 10 premiers épisodes, c'est pas terrible, mais j'y ai cru dans le potentiel, et ce potentiel se réalise. Là, les séries ont une durée de vie qui est parfois pas plus longue que celle d'une souris. Et puis en même temps encore une fois il y a tellement de trucs qui tombent entre les plateformes de streaming, le câble gratuit, le câble payant et les networks que moi j'arrive plus à développer de vraies logiques de sélection.
Et pour continuer là-dessus et revenir sur Crazy Ex-Girlfriend, et sur la logique de c'était mieux avant. Avant, on pouvait découvrir une série par un épisode de la saison 2, de la saison 3 qu'on avait vu à la télé. Si à la rentrée, je me dis, je me lance dans Crazy Ex-Girlfriend, est-ce que c'est une série qui est facile d'accès pour un nouveau public assez rapidement, ou vaut mieux se dire, bah non, il vaut mieux se taper toute la première saison, au risque de se lasser avec un visionnage estival pour le coup, parce que autant une série qui est un peu répétitive, ça va quand tu sais que tu as maximum un épisode par semaine. Quand tu fais un rattrapage estival, un beau visionnage bouton, te dire bah, je vais me taper 3-4 heures de défauts répétitifs, est-ce que Crazy Ex-Girlfriend tiendrait un visionnage estival, et deux, est-ce qu'on peut se lancer dans la série assez facilement?
Je pense qu'on peut commencer en saison 2, oui.
Bah en plus, les audiences sont assez catastrophiques, donc ils ont tout intérêt à faire en sorte que la personne qui débarque en cours de route ne soit pas complètement larguée.
Je pense que tu peux t'écouter la bande originale sur Spotify, hein, de la première saison, et ensuite regarder la saison 2, ouais.
Et le fait que ce soit une série qui ait beaucoup de morceaux musicaux, est-ce qu'il y a un formatage à chaque épisode? Donc, il y a des charges qui disent il nous faut 4 chansons, elles vont être espacées de 5 minutes d'intervalle, où les morceaux musicaux arrivent organiquement dans l'histoire?
Non, ça s'intègre plutôt bien. Il n'y a pas forcément un nombre de chansons imposées. Quoique, on est toujours entre 2 ou 3. De toute façon, les contraintes techniques font qu'il ne peut pas y en avoir 10 par épisode. Mais ça arrive plutôt bien, hein, foncièrement. Foncièrement, c'est une série de grande qualité. Mais après, je n'arrive pas à la vendre parce que...
Story bateau.
Ouais, les personnages...
Le personnage
principal est compliqué, même si moi j'ai toujours bien aimé ce genre de personnage à la Ally McBeal. Je dois être l'un des rares qui aimait la série pour son personnage principal. Mais ouais, j'ai un peu de mal avec tous ces personnages, toute cette galerie de personnages qui reste un peu, pour moi, trop caricaturaux.
Et donc, est-ce qu'elle mérite de rester en finale pour la meilleure nouveauté de la saison?
Oui.
Oh oui, si, parce qu'elle est quand même hyper originale quand même.
Au vu du reste, ouais.
Et est-ce que Supermeuf, c'est aussi original? Est-ce que Supergirl, Jérôme, toi qui étais l'avocat de la série à ses débuts, avec Iris?
Ah, moi je suis à fond sur Supergirl.
De quoi ça parle?
Alors, ça parle de la cousine dont on n'avait jamais entendu parler de Superman.
Qui apparemment...
Oui, mais moi j'ai pas lu 1 milliard de comics. Moi, j'étais occupé à regarder Law and Order, s'il te plaît.
Bim.
Pour finir à la quarantaine passée, à regarder Supergirl à la télévision.
Ouais, peut-être que j'aurais mieux fait de lire ça quand j'avais 7 ans.
Non, mais vas-y, les insultes, ça va aller, là. On va se calmer.
Non. Mais donc, c'est la cousine de Superman, mais elle a été envoyée en même temps... que son cousin. Non, elle a été envoyée pour protéger son cousin, parce qu'elle est plus grande officiellement que son cousin, mais elle a été coincée dans un vortex ou un concept de ce genre.
T'es en train de dire que les femmes mettent beaucoup trop de temps à se préparer, du coup, elle était en retard.
Elle était hyper en retard.
Okay.
D'une quinzaine d'années après, elle est adoptée par une famille, donc elle a une sœur adoptive, et donc on suit leurs aventures dans une espèce de ville à la comic book, c'est-à-dire que le monde n'existe qu'à travers une seule ville. Et donc cette jeune fille est donc une extraterrestre qui peut voler, qui est super forte, mais elle cache son identité à tout le monde, et c'est une assistante d'une mania d'une grande boîte de communication, ou de presse plutôt.
Ouais.
Et voilà, donc elle se bat contre les méchants aliens qui veulent envahir sa planète. La série fonctionne très très bien grâce aux deux personnages de sœurs. Il y a une relation entre les deux qui fonctionne vraiment très très bien. On y croit dès le début. Et que dire d'autre ? C'est relativement plaisant. Enfin, non, c'est franchement plaisant. C'est gentiment féministe. C'est un peu le féminisme expliqué au nul de temps en temps par Ally McBeal. Mais ça fait toujours du bien. Les personnages masculins sont peut-être le point faible de la série, même si bah, on pourrait dire qu'en gros, ils incarnent les archétypes à l'envers des personnages féminins dans les séries de ce genre-là. Mais de façon générale, moi, je trouvais que la série fonctionnait plutôt très très bien, était de qualité assez égale d'épisode en épisode. Voilà.
Comme t'as un pénis et que par l'euphémisme, c'est pas compatible. Il faut demander l'avis de Fertis. Est-ce que tu valides ce que
je valide l'avis de...
que GG vient de m'expliquer sur sur Supergirl.
Je viens de mansplain. Non, c'est vrai, c'est une série qui est réussie parce que c'est les personnages des deux sœurs fonctionnent vraiment très bien. Bon, effectivement, il y a des côtés un peu gentillés par moment, mais ça fait du bien aussi. Hein, ça fait du bien quand on voit que le reste des séries autour des super-héros sont toujours beaucoup trop noirs et beaucoup trop se prennent beaucoup trop au sérieux. Supergirl au moins est légère et sans être gnangnan, sans être stupide, hein. Ça reste une bonne série. Hein.
Mais c'est vrai que tu touches un point intéressant, parce que la plupart des séries de comic book qui passaient à la télé semblaient pas vraiment assumer leur identité série de comic book et voulaient se positionner plus sur un terrain de « regardez, on est comme le Batman de Nolan ».
Ouais.
On a Arrow, même les séries Marvel, hein, on a Daredevil, même qui est un comic book... qui à par moment est assez noir. Là, avec une série Supergirl qui assume son côté rétro, un peu comme Flash, du peu que j'ai vu.
Des débuts Flash, parce que maintenant ça s'est assombri, et effectivement, ouais. Barry est super torturé, il est coupable de tout en permanence, comme tous les super-héros qu'on voit.
À l'inverse, Agent Carter garde ce côté en saison 2. Assez léger, sans se prendre trop au sérieux, avec un message féministe positif. Est-ce que ça veut dire qu'on reste sur quand même une vision un peu sexiste de dire que les séries avec des super-héros de mecs, ça se doit de sentir un peu plus fort la testostérone et se diriger vers du sous-Nolan, et les séries avec des héroïnes féminines peuvent se permettre d'être plus légères?
Jessica Jones a l'air de prouver le contraire, non?
Eh ben, c'est un excellent argument, mais maintenant tu viens de mettre tout ça. Très très bien, hein. Merci d'avoir détruit mon super questionnaire que je me suis dit dans le bus. Bam. Mais du coup, Supergirl, du niveau de Crazy Ex-Girlfriend, est-ce que ça reste en finale?
Ah ouais.
Bon, on va pas dire des codes blagues quand même, faut pas rigoler.
Eh ben, on y vient, un code black. Nickel.
J'étais exprès pour Jérôme.
Bon alors. Il faut dire, il faut avouer à tout le monde qu'on avait un pacte tous les deux en début de saison.
Oui.
Je devais regarder Chicago Med, tu devais regarder Code Black, et on devait faire un point pour dire qui a été la meilleure des deux séries. Bon, j'ai pas réussi à dépasser le pilote en catimini de Chicago Med.
Je crois que tu l'avais bien aimé pourtant.
Ouais, mais j'ai pas assez pour regarder la suite.
D'accord.
Le seul intérêt pour moi de Chicago Med était de se dire que l'un des personnages principaux était un psychiatre.
Oui.
Ce que je trouvais cool pour une série médicale.
Joué par Oliver Platt.
En plus. Après, je me suis rappelé que c'était quand même la franchise Chicago qui a de bonnes aspirations, mais côté exécution, qui fait assez mal aux yeux. Quoi.
Totalement. Alors ça...
Code Black, donc si je comprends le principe de la série, corrige-moi si je me trompe, chaque semaine, il se passe un truc gravissime, un patient qui a un truc très bizarre. On
même
appuie pas. Sur un bouton et on dit il y a code black.
Même pas, en fait non. À chaque fois ça commence par un carton.
Alors déjà vous l'avez regardé tous les trois? Vous l'aviez vu tous les trois la série?
Je l'ai pas vu en entier, mais j'en ai regardé quelques épisodes, oui.
Mais je l'ai pas vu.
T'as un carton au début de chaque épisode qui explique que dans les hôpitaux américains, le fait de se retrouver en code noir, ça veut dire que t'as trop de patients et pas assez de moyens pour gérer cet afflux de cas. Et ça arrive 5 ou 6 fois dans tous les hôpitaux. Et dans l'hôpital des héros, ça se passe 300 jours par an.
Okay.
En mode, vas-y, là, accroche-toi à ton slip, ça va partir.
Et est-ce que c'est bien?
Bah non, je suis désolé, je suis pas d'accord, donc on va avoir un débat. Mais
il fallait voir la réaction de Delphine, qu'on peut malheureusement pas mimer aux gens qui ne sont pas là et aux malvoyants, mais ça en valait la peine. Et le truc qui m'inquiète beaucoup, c'est que Jérôme et Fertis, vous êtes de moins en moins d'accord tous les deux.
Mais oui, mais je sais pas ce qui se passe.
Il faut que ça se calme maintenant.
On est d'accord sur Supergirl, ça va.
Je suis inquiète.
Jérôme, pourquoi Nicolas a tort et que Delphine est plutôt amie? Et que Code Black, c'est super bien.
Non, mais Code Black, je peux plus rien dire sur Code Black puisque en saison 2, ils ont décidé d'engager Rob Lowe.
C'est vrai.
Pour
c'est
devenir la co-star de Marcia Gay Harden, puisqu'elle seule, elle ne pouvait pas porter toute seule la série avec ses petits bras. Donc, il a fallu lui mettre un homme et donc ils ont décidé de choisir cet atroce bonhomme.
Dr. Grindr.
Non, mais. Donc. Je pense que je me suis trompé et que Code Black c'était pourri dès le début.
Non, mais il y a comment dire.
Est-ce qu'il y a de l'intérêt à Code Black?
Ben oui, ça.
Bah vous l'avez suivi sur toute la saison. C'est quoi l'intérêt de Code Black? Déjà, Marcia Gay Harden.
Elle est super.
Oui.
Parce que pour l'instant, elle n'était pas super gâtée côté série. Dernière fois que je l'ai vue, c'était dans Damages.
Oh lolo, saison
2. Oh la pauvre.
J'ai dû la voir dans une comédie.
Dans Trophy Wife. Exactement. Était l'une des femmes de Bradley Whitford.
Mais elle n'a pas eu de série qui m'ont fait dire « Waouh !»
Oui.
Est-ce que Code Black fait dire « Waouh !» à Marcia Gay Harden?
Non, parce qu'en gros, elle sauve plutôt un personnage parce que c'est une très bonne actrice. Elle sauve un personnage qui est un peu écrit...
C'est ça. Il est chargé comme un cycliste au Tour de France.
Ben oui, puisque bon, tout...
Excuse-moi, ça veut dire quoi? Il oui. Faut rappeler que t'es le seul mec blanc hétéro. Moi, enfin, chez nous, les Arabes, on regardait pas le Tour de France.
Non, je veux dire par là que...
Non, regardez l'inspecteur Tahar.
D'accord.
Qui est middle en Algérie. Qu'est-ce que c'est que cette expression?
Ben, je veux dire par là que, comme un cycliste qui est souvent... comme un cycliste du Tour de France qui sont régulièrement accusés de dopage.
J'ai perdu l'intérêt dans mes questions parce que c'était une métaphore sportive. Donc on va revenir au thème.
D'accord,
du Code Black.
Il y a un truc, tu as deux personnages féminins qui sont hantés par la mort d'un enfant. Deux, déjà. Pim.
Ouais, c'est vrai.
Mais comment ça? Leur môme est mort ou un des patients qui était enfant est mort?
Marcia Gay Harden a perdu son mari et son enfant dans un accident et elle n'a pas pu les sauver. Trauma. Le personnage joué, Dr. Lorenson, si je me souviens bien, joué par Bonnie Somerville. Souvenez-vous, l'ex.
Bonnie Somerville, c'était pas quelqu'un de Friends, ça?
Si, c'est celle qui est la meilleure amie de Phoebe qui se rase le crâne à la fin de la saison 3 quand ils sont sur l'épisode sur la plage. Et elle joue aussi dans la saison 12 de NYPD Blue. Elle est la partenaire de Jacqueline Obrador.
Non, mais cette mémoire, Nicolas, cette mémoire, comment tu fais?
Ouais, je ne sais pas. Tu es
dans Kitchen Nightmares aussi, non?
C'est possible.
Non, pas Kitchen Nightmares, le truc avec Kitchen quelque chose,
Kitchen
avec
Confidential.
Ouais. Ouais.
Et
elle aussi, elle a perdu un.
Elle a perdu un enfant victime d'un cancer.
D'un cancer, oui.
Alors, excuse-moi, mais il y a un moment où ça devient. Autant, je crois que c'est Jules qui dit je ne peux pas regarder une série où on nous dit quelqu'un qui est super bon dans son boulot, mais qui n'arrive pas dans sa vie sentimentale. Moi, c'est maintenant le. Non, vous comprenez, elle a perdu un enfant, quoi. Ça devient.
Ouais,
c'est la broadchurchisation du monde. Le côté, allez, on va prendre une histoire avec un enfant, comme ça va forcément tirer des larmes, et on n'a du coup plus aucun effort à faire en termes d'empathie avec le personnage. Vous comprenez,
oui.
Le trauma. C'est bon, on n'est pas des machines, on n'est pas des. Comment dire, une espèce de truc avec des cordes, il suffit de tirer sur ces cordes pour que ça marche. En fait, si. Ouais. Mais en tout cas, il faut le faire de manière plus subtile.
Mais là, on sent bien que c'est un problème de scénariste qui doit se dire pour que ma série puisse être acceptée par une chaîne, je ne peux pas arriver en disant salut. Moi, j'ai juste envie de faire une chronique médicale à la urgence.
Mais alors...
Et on va leur demander bah oui, mais il y a quoi d'autre? Bah non, mais ce sera juste ça. Donc effectivement, on sent que ce sont des contraintes qui se sont imposées quasiment eux-mêmes en se disant mince, si on n'a pas un gros truc pour chaque personnage,
que CBS
on ne pourra pas le
vendre.
Peut-être que CBS leur a imposé. En tout cas, c'est des choses qui tendent à s'estomper au fur et à mesure de la saison. C'est-à-dire que les personnages commencent à exister un peu par leurs actions, un peu par eux-mêmes, et pas par leur passé qui.
Mais c'est
qui
quand même.
Avant la saison. Mais ouais,
c'est quand même dramatique de faire une série sur on n'a pas de moyens, et du coup de raconter l'Amérique de Obamacare et dire voilà, aujourd'hui, soigner les gens alors qu'on n'a pas de moyens, ça nous oblige à faire des mauvais choix, ça nous oblige à faire des. à avoir des situations particulièrement dramatiques. Ils ne le font jamais.
Ils ne le font jamais.
Donc ils sont passés à côté de leur.
Il y a même, un propos qui est différent, qui est en gros, c'est on n'a pas de moyens, mais quand on veut, on peut. Donc oui, c'est pas grave si on n'a pas de moyens, parce qu'on est tellement géniaux qu'avec trois tuyaux et deux ciseaux de couture, on va réussir à sauver à peu près tous les patients. Donc effectivement, oui, la série passe à côté. Bon, ben, donc effectivement, vous aviez raison, quand vous l'accès tout pour lui.
Donc on peut l'éliminer sans scrupule. Donc pour l'instant, on a fait ça en finale.
Tu fais un F5 avec Delphine de loin, voilà.
Un Bordeaux-Paris. En finale, on a pour l'instant Crazy Ex-Girlfriend et Supergirl, mais avant, The People versus O.J. Simpson.
Ah mais oui.
Alors, déjà, Fertis, est-ce que tu as regardé?
Oui, bien sûr, oui, j'ai adoré.
T'as adoré. Pourquoi et de quoi ça parle?
Ça reprend en fait le procès d'O.J. Simpson, le fameux, le célèbre procès d'O.J. Simpson. Et voilà, depuis son arrestation jusqu'à la fin du procès.
Et pourquoi c'est bien?
Parce qu'on parle de tout sauf O.J. Simpson finalement.
Parce que le thème de la série, en fait, c'est pas tant la culpabilité d'O.J. Simpson, mais c'est... Non, parce d'expliquer ce qui s'est passé autour de ce procès, les tenants et les aboutissants du procès, et pourquoi on avait l'impression que O.J. Simpson est coupable ou pas.
Pour le coup, autant dire Code Black, c'est un mauvais titre, autant The People versus O.J. Simpson, je trouve que c'est un excellent titre, parce que c'est vraiment le peuple, autrement dit, comment la société américaine réagit face à l'affaire O.J. Simpson 2 ans après les émeutes de Los Angeles et l'affaire Rodney King. C'est-à-dire que, d'entrée de jeu, la série enchasse son propos en rappelant ce qui s'est passé 2 ans avant, en disant « voilà où on en est au moment où ça survient ». Et vraiment, c'est The People, donc c'est le ministère public, mais c'est aussi toute la machine judiciaire face au cas O.J. Simpson. Et c'est ça qui rend l'histoire pour moi fascinante.
Oui.
Mais ce qui est terrible, c'est que, autant j'avais adoré la série, autant j'ai regardé le documentaire de ESPN en 5 parties, qui, de ce point de vue-là, d'un point de vue
est largement supérieur.
Mais largement supérieur, puisque donc c'est quoi ? Ce sont des épisodes de 5 épisodes d'une heure et demie. Il y en a que 2 qui sont consacrés au procès. Les 2 premiers sont consacrés au contexte racial aux États-Unis, c'est-à-dire la façon dont à la fois O.J. Simpson est perçu par la communauté noire aux États-Unis, et puis comment la communauté noire, surtout à Los Angeles, est traité par la police. Ils font ça en 2 épisodes exceptionnels.
Oui.
Et effectivement, ça donne une dimension au procès d'O.J. Simpson dont on ne pouvait pas se rendre compte en France, j'imagine, c'est à ce moment-là, sans connaître l'histoire des Noirs américains, particulièrement en Californie. Et effectivement, cette série documentaire qui est prodigieuse. Hein. Et puis, il y a aussi le dernier épisode qui est...
Alors, on va trop en parler parce qu'on a un podcast qui va... parler.
Oui.
Ouais, ce qui se passe après. Alors, effectivement, ça, pour moi, ça réduit l'intérêt de la série qui tient, à mon sens, principalement à la performance de... Comment elle s'appelle
Sarah Paulson.
Non, mais qui est incroyable. Et quand on écoute...
Et quand la Vivienne, tu avais raison pour le coup, Nicole.
Ouais. Alors là, pour le coup, franchement, quand tu penses à Ron Carver dans New York Criminal Intent, il était vraiment largement en dessous. Même dans la première saison de Boston Public, il joue un père de famille noir, confronté. Il y a une grosse histoire de tension raciale, et lui joue le père qui rentre dans un conflit avec le proviseur. Ouais, je sais, là, je fais flipper.
Oui, beaucoup.
mais là, pour le coup, il est habité par ce personnage, c'est fantastique. Mais il y a un truc que tu avais dit, Gégé, que je trouvais très juste, c'est que la série raconte pas seulement l'affaire O.J. Simpson, elle raconte, c'est la première histoire de télé-réalité jamais filmée. Et je trouvais que c'était très juste et très brillant, parce que tous les éléments sont là, c'est-à-dire que chaque acteur de l'affaire devient un personnage que les médias font et défont, ne serait-ce que la coupe de cheveux de cette pauvre
Marcia
Clark. Avec la musique de Seal, Kiss from a Rose, quand elle arrive après être sortie chez le coiffeur. Enfin, c'est fantastique, quoi.
Mais du coup, moi, là, ça m'a posé un problème. Alors, pour rejoindre Gégé, j'ai eu exactement le même problème que toi. C'est que moi, j'ai vu la série il y a deux semaines. J'ai enchaîné sur les deux premiers épisodes du documentaire et tout de suite, la série a perdu de l'intérêt pour moi.
D'accord, quand je regarde le documentaire.
Mon point, ce qui me pose un peu problème dans ces séries qui sont adaptées de faits réels, c'est à quel point je peux faire confiance à la narration. Alors, j'ai pas la mémoire de Nico, mais j'ai regardé une mini-série d'ABC qui était passée totalement inaperçue il y a quelques mois sur la guerre froide, sur des espions tirés d'une histoire vraie. L'histoire vraie est géniale. Par contre, le traitement des personnages était beaucoup trop manichéen et beaucoup trop simpliste. Les thèmes de The People vs. O.J. Simpson sont réels et sont abordés de manière très pertinente. Le racisme, le sexisme, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais à quel point tu peux faire confiance au narrateur sur le fait que est-ce que la vraie Marcia Clark, elle était vraiment comme ça?
Il faut voir à quelle mesure ils se sont vraiment appuyés sur le bouquin à partir.
Et après, le bouquin. Est-ce que le bouquin en lui-même, on peut vraiment lui faire confiance? Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que on te dit pas O.J. Simpson est coupable. En gros, le meurtre en lui-même, c'est pas le but de la série. Le but de la série, c'est tout ce procès et tout ce qui a tourné autour de ce procès. Mais quand on arrive sur un terrain qui est très 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 personnel, est-ce que tu peux vraiment faire confiance à la série?
Moi, je me pose pas le problème selon ça, en fait. Je comprends tout à fait quand tu dis est-ce que je peux faire confiance au narrateur. Moi, je me demande est-ce que je peux faire confiance à l'histoire. Est-ce que émotionnellement, j'ai eu mon compte ou pas?
Mais c'est lié. Si on reprend là où tu me disais avant de regarder la série, tu me disais tu verras, c'est la série qui a inspiré Murder One, c'est super bien. J'ai eu encore beaucoup plus de respect pour Murder One qui a pris quelques thématiques, pas toutes, il y a absolument pas la thématique raciale, mais en l'appliquant sur un terrain narratif neuf qui n'a pas lié de près ou de loin à l'affaire O.J. Simpson, retire cette problématique. Là, je me suis dit à quel point c'est caricatural. Il y a une scène que j'ai trouvée très bien et qui m'a posé énormément de problèmes, c'est la scène avec Robert Kardashian au restaurant avec ses quatre enfants. On sait ce que ses quatre enfants sont devenus. On sait que l'incroyable famille, la famille Kardashian, il parle de cette notion de rapport avec la célébrité. On sait ce qui est arrivé à Kim, on sait ce qui est arrivé à Courtney, on sait ce qui est arrivé à Chloé et à Rob. Oui, je connais leurs quatre noms parce que j'aime beaucoup les Kardashians. Mais, encore une fois, je me suis dit, est-ce que c'est pas sensationnaliser cette scène parce que c'était les Kardashians? La présence de John Travolta, j'ai trouvé sa prestation superbe, mais...
Son physique, beaucoup moins.
Ça m'a un peu perturbé le fait que ce soit Travolta, ça m'a un peu perturbé que ce soit Ross de Friends. J'ai pas réussi à certains moments à sortir d'une image préconçue que j'avais des acteurs.
Mais ça c'est peut-être pas mal. Au final, la prestation de John Travolta nous permet de nous rappeler en permanence que c'est une reconstitution, que c'est pas, enfin que c'est
exactement
une reconstitution. J'ai un regard et que effectivement on peut pas se dire c'est un truc documentaire ou quoi que ce soit. On est vraiment dans une œuvre de fiction puisque John Travolta sera toujours John Travolta et pas Robert Shapiro. Et pour le coup, autant il m'avait gêné au début, autant là, dans tout ce que vous dites, je trouve que finalement John Travolta
c'était
a
une super performance.
Utilité,
mais
dans
du coup,
la série pour
ça rajoute une distance par rapport au.
Pour donner une distance.
Ouais. Ouais.
En fait, c'est peut-être là où les gens disent ouais, non, c'est pas du tout du Ryan Murphy, mais si, toute cette distance, c'est hyper Murphy-esque. Le côté, voilà, on est dans une fiction. Alors c'est de manière moins poseur, moins crétine que dans Scream Queens par exemple. Mais il y a le côté, voilà, vous êtes avec les Kardashians quand les gosses sont devant la télé dans l'épisode 2 où ils sont là à épeler leur nom en regardant leur père dans la télé. Là, tu te dis, ok, Ryan Murphy s'est fait plaisir. En plus de ces zooms qu'il a adoré faire sur Bruce Greenwood pendant plein d'épisodes, enfin, il y a un côté, il y a des plans complètement hallucinants, genre on regarde l'horloge, tout à coup l'horloge ça se met à tourner dans l'autre sens. Enfin, il y a un jeu comme ça visuel. Mais il y a le côté, voilà, oui, c'est la réalité, et en même temps, Ryan Murphy, on retrouve son côté, ouais, mais ça reste une série télé, enfin...
Oui, il raconte une histoire,
ouais. C'est pour ça que ça m'a moins gêné, parce que, justement, peut-être qu'il y avait le côté, je suis Ryan Murphy, et en fait, même quand j'essaie de faire quelque chose de carré, je vous rappelle que, voilà, il y a mon style, il y a ma personnalité, j'en fiche de partout.
Alors, People vs. O.J. Simpson, finale ou pas finale?
Évidemment.
Ah oui, moi, oui.
Alors maintenant, on a trois en finale. Hein. La finale, ça peut être que la deux. Entre Crazy Ex-Girlfriend, Supergirl et The People vs. O.J. Simpson, qui doit partir?
Oh là là.
Ah, lui, ils vont partir.
Alors bon, The People vs. O.J. Simpson, c'était quelque chose de nouveau. C'était quelque chose de très réussi, qui partait avec moi personnellement, je partais avec un a priori assez fort, en me disant, je veux pas regarder une série de Ryan Murphy, c'est pas possible.
Pareil.
Donc, belle surprise.
Elle est caractéristique de cette saison, puisque
elle est emblématique de cette saison. Elle est en train de survendre le fait que c'est ça qui va gagner, mais bon.
Ouais, c'est ça. Et à la limite, dans cet esprit, on peut choisir Crazy Ex-Girlfriend, qui en gros est aussi emblématique du fait que la CW maintenant a acquis une sorte de respectabilité et qu'elle fait des séries différentes. Peut-être que Supergirl est moins emblématique de quoi que ce soit en rapport avec cette saison.
Delphine, tu es d'accord?
Oui, je suis d'accord.
Nicolas,
complètement d'accord.
Super, super consensus, génial, même pas de tension. On sait très bien maintenant qui va être la nouvelle femme blanche qui va être détruite par O.J. Simpson. Trop, trop bien. Donc la finale, c'est Crazy Ex-Girlfriend et The People versus O.J. Simpson. Vous sortez de tous les droits votre portable. Vous m'envoyez un message privé. Qui gagne pour garder
Non, mais attends, moi je vais t'envoyer un petit papier. Ce sera moins.
Mais non, parce qu'on va savoir que c'est toi qui m'a donné le petit papier. On va le faire de manière anonyme. Pendant que vous votez, est-ce qu'il y aurait une série que vous auriez aimé voir dans ce panel? Une nouvelle série cette année qui vous a marqué? D'accord, nickel. Si vous qui nous écoutez aviez une série qui vous a marqué, qui ne faisait pas partie, n'hésitez pas à le poster sur notre forum.
Ah, oh, c'est dur de voter.
C'est deux univers tellement différents pour le coup.
J'ai tellement du mal avec mon téléphone qui est tellement lent que.
Ah, pareil.
Alors, rechercher.
Ah, j'ai déjà un vote.
Ah. Ouais. C'est dur, hein, c'est dur.
Donc, je répète, si ceux qui nous écoutent veulent participer au podcast, eh ben, c'est pas possible parce qu'on aime pas les gens. Par contre, vous pouvez poster sur Twitter et sur le forum et m'envoyer pas de message privé, ça sert à rien. La série que vous auriez aimé voir cette saison dans le podcast.
Ok, ça marche toujours.
J'attends plus qu'un vote.
Et avec ces deux votes, est-ce que
alors, pour l'instant, j'ai deux votes. J'ai celui de GG et j'ai celui de Fertis. Et on sait très bien que GG et Fertis, depuis quelques temps, c'est plus trop ça.
Oh non !
On n'a pas voté pareil !
C'est plus trop ça du tout.
Je m'inquiète pour notre coup.
Et j'ai mon troisième vote. Et bien, pour ce premier vote, pour ce premier podcast, la série emblématique de cette saison 2015-2016... aurait dû être O.J. Simpson, mais comme on est super désolé, bien sûr que c'est Crazy Ex-Girlfriend, et bien sûr que GG et Delphine étaient d'accord.
Ouais.
Ah, tout va bien. Ouf.
Et que pour Perduza, la meilleure nouvelle série de cette saison, c'est Crazy Ex-Girlfriend.
She's a Crazy Ex-Girlfriend.
D'ailleurs, il y a un générique à...
Oui.
Mais oui, il est génial en plus. Hein.
Nickel, bon, bah, si avec ça, vous n'êtes pas motivé à regarder la série, si c'est pas le cas. Bah, blâmer Delphine et Jérôme. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast où on va parler des annulations.
Ouh.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.